Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Art3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Comment maîtriser ses émotions » est un guide pratique de psychologie appliquée et de développement personnel signé par Richard Rokicki. Présenté comme psychologue clinicien, l'ouvrage vise les personnes qui se sentent régulièrement submergées par anxiété, doute, rumination ou réactions émotionnelles intenses. Sa proposition centrale ne consiste pas à supprimer les émotions ni à imposer une pensée positive, mais à modifier la manière de les observer, de les comprendre et de leur répondre. Le livre articule ainsi intelligence émotionnelle, attention au moment présent et construction de la confiance en soi. Les informations disponibles le décrivent comme un ouvrage orienté vers des outils immédiatement mobilisables, notamment pour interrompre la suranalyse et réduire le sentiment de perte de contrôle intérieur. Il aborde aussi des situations souvent liées à cette difficulté, telles que hypersensibilité, colère, autocritique et syndrome de l'imposteur. Son objectif est de fournir un cadre accessible pour passer de réactions automatiques à des choix plus conscients, sans présenter la régulation émotionnelle comme une solution instantanée ou purement intellectuelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, rompre le cercle entre anxiété, rumination et besoin de contrôle. Le problème traité par le livre est moins la présence normale de émotions difficiles que leur prolongation par une activité mentale répétitive. Une inquiétude peut déclencher une analyse incessante, laquelle augmente la tension et produit de nouvelles inquiétudes. Ce cercle entre anxiété et rumination donne souvent une impression trompeuse de contrôle. Réfléchir davantage semble préparer une solution, mais peut surtout maintenir attention et corps dans un état de vigilance. Le positionnement de Richard Rokicki consiste donc à aider le lecteur à repérer ce mécanisme plutôt que de débattre sans fin avec chacune de ses pensées. Cette distinction est importante, une pensée anxieuse peut contenir une question concrète à traiter, mais elle peut aussi devenir une répétition sans information nouvelle. Dans le second cas, poursuivre analyse ne résout pas le problème initial. Le livre met en avant la sortie de la surpensée et du surcontrôle comme condition de apaisement. Cela donne une orientation pratique à intelligence émotionnelle, identifier le moment où la réflexion devient rumination, suspendre automatisme, puis choisir une réponse adaptée. Une telle approche évite de confondre lucidité et autocritique permanente. Elle place aussi la régulation dans une démarche progressive, car les habitudes de vérification mentale et de doute excessif demandent une attention répétée pour être modifiées. Deuxièmement, utiliser la respiration et le présent pour observer émotions avant agir. Parmi les outils associés au livre, la respiration occupe une fonction de point ancrage dans l'expérience immédiate. Son intérêt ne réside pas dans une promesse de faire disparaître toute émotion désagréable, mais dans la création d'un court espace entre ressenti et réaction. Lorsqu'une personne est anxieuse, irritée ou envahie par ses pensées, son attention se porte volontiers vers des scénarios passés ou futurs. Revenir au souffle peut réorienter cette attention vers des sensations observables et limiter l'emballement cognitif. Le cadre décrit dans les sources relie cette pause à trois gestes: observer émotion, la nommer, puis décider d'une action. Nommer avec précision peut réduire confusion entre plusieurs états proches, par exemple peur, frustration, honte ou fatigue. Cette clarification ne constitue pas une analyse abstraite, elle prépare un choix plus pertinent. Une émotion de colère peut signaler une limite à exprimer, tandis qu'une anxiété liée à une tâche peut inviter à définir une étape concrète. Le livre semble donc privilégier une présence active plutôt que évitement émotionnel. La respiration devient un moyen de récupérer une marge de décision, non une technique destinée à nier une difficulté réelle. Cette articulation entre corps, attention et action explique la dimension directement applicable de l'ouvrage. Troisième, faire de la confiance en soi une pratique de auto-acceptation. Le développement de la confiance en soi est présenté comme un prolongement de la régulation émotionnelle. Le livre associe les doutes persistants, la négativité et le syndrome de l'imposteur à une relation intérieure fragilisée. Dans cette perspective, la confiance ne se réduit pas à adopter une image valorisante de soi ou à obtenir des résultats visibles. Elle dépend aussi de la capacité à reconnaître ses limites, ses erreurs et ses émotions sans les transformer immédiatement en preuve de insuffisance. Auto-acceptation ne signifie donc pas renoncer à progresser. Elle permet plutôt de réduire la charge défensive qui accompagne souvent perfectionnisme et peur de l'échec. Quand chaque difficulté est interprétée comme une confirmation d'incompétence, attention se fixe sur la menace et limite apprentissage. Un rapport plus stable à soi permet de distinguer un échec ponctuel d'une identité entière. Les sources décrivent le livre comme cherchant à construire des fondations solides de confiance et à réduire le sentiment de l'imposture. Son apport pratique consiste à déplacer le lecteur de la validation extérieure vers une évaluation plus consciente de ses pensées et de ses réactions. Cette orientation est cohérente avec le traitement d'anxiété. Moins une personne dépend de verdicts internes extrêmes, moins elle doit surveiller sans cesse ses performances. La confiance devient alors une capacité de retour à équilibre plutôt qu'une assurance permanente. Quatrièmement, aborder hypersensibilité et colère sans les réduire à des défauts, le livre inclut la gestion de l'hypersensibilité et de la colère dans sa recherche de stabilité émotionnelle. Ces deux thèmes demandent une nuance particulière. Hypersensibilité peut désigner une réactivité forte aux critiques, aux tensions relationnelles ou aux stimulations, mais elle ne constitue pas en elle-même une faute de caractère. De même, la colère peut signaler une frustration, une injustice perçue ou une limite franchie. La difficulté apparaît lorsque l'intensité du ressenti impose une réaction qui aggrave la situation ou lorsque la personne se juge sévèrement pour avoir ressenti cette émotion. Le cadre de l'intelligence émotionnelle proposé invite à reconnaître le signal avant de choisir comportement. Cette séquence aide à séparer émotion, pensée interprétative et action. Ainsi, ressentir de la colère ne force pas à attaquer, se taire ou ruminer. Il devient possible de rechercher une expression plus proportionnée ou une limite plus claire. Pour une personne hypersensible, identifier les circonstances qui déclenchent surcharge peut également soutenir une meilleure préparation et une récupération plus consciente. Les informations disponibles ne permettent pas de reconstituer un protocole clinique détaillé, mais elles confirment que ces sujets appartiennent aux objectifs annoncés. Leur présence distingue une approche de la maîtrise émotionnelle qui ne se limite pas au calme face au stress et qui traite aussi les conséquences relationnelles de la réactivité. En dernier lieu, privilégier des exercices concrets plutôt que des explications théoriques lourdes. La caractéristique la plus visible de l'ouvrage est son ambition de fournir une aide pratique et accessible. Les descriptions disponibles insistent sur des exercices destinés à ancrer attention dans le présent, interrompre analyse compulsive et orienter les pensées négatives vers une réponse constructive. Ce choix répond à une limite fréquente des livres sur intelligence émotionnelle. Comprendre un concept ne garantit pas son utilisation au moment où anxiété ou colère monte. Un format centré sur application cherche au contraire à transformer les notions en habitudes observables. La simplicité peut favoriser répétition, surtout auprès de lecteurs déjà fatigués par surmenage mental. Elle comporte aussi une limite. Les personnes très familières des techniques de régulation émotionnelle peuvent y trouver moins de nouveautés conceptuelles. De plus, un guide général ne remplace pas un suivi professionnel lorsque anxiété, colère ou souffrance psychique compromettent fortement quotidien, relations ou sécurité. Cette réserve renforce toutefois une lecture juste du livre. Il se présente comme un soutien de première intention et non comme une théorie exhaustive de la vie émotionnelle. Sa valeur dépendra donc de l'engagement du lecteur à essayer les pratiques, observer leurs effets et les adapter à ses situations réelles. Le livre défend une régulation incarnée et répétée, plutôt qu'une solution intellectuelle unique. En conclusion, comment maîtriser ses émotions conviendra surtout aux lecteurs qui vivent une anxiété nourrie par rumination, doute, autocritique ou besoin de tout contrôler. Il peut également intéresser les personnes qui se reconnaissent dans hypersensibilité, accès de colère, peur de l'échec ou impression de ne jamais être assez légitime. Son bénéfice pratique attendu tient à son orientation vers des gestes simples, remarquer emballement mental, revenir aux sensations présentes, identifier émotions et choisir une réponse plus utile. Sur le plan intellectuel, il propose une idée cohérente. Les émotions ne deviennent pas plus gérables parce qu'elles sont niées, mais parce que la personne apprend à ne plus confondre ressenti, jugement intérieur et action immédiate. Par rapport aux ouvrages très théoriques sur intelligence émotionnelle, celui de Richard Rokicki semble se distinguer par un ton direct et une recherche de mise en pratique rapide. Par rapport au livre de pensée positive, il se démarque aussi par attention portée aux mécanismes de rumination et de surcontrôle, plutôt que par une injonction à remplacer toute pensée négative. Cette accessibilité est un atout pour débuter, même si les lecteurs déjà formés aux approches de pleine conscience ou de thérapie cognitive pourront trouver les principes familiers. Lu comme un guide de pratique régulière et non comme un remède universel, il offre un cadre utile pour développer davantage de recul, de stabilité et de confiance dans les situations émotionnellement chargées. Si vous souhaitez soutenir Richard Rokicki, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.